Et nous voulons, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, incliner nos têtes une fois de plus, demander à ce Dieu merveilleux de nous faire du bien par sa parole, qu'il puisse déposer sa pensée en nous, qu'il poursuive l'œuvre qu'il a commencée dans chacun de nous, l'œuvre de perfectionnement, de régénération, de transfiguration. Seigneur, tu es là. Nous t'avons chanté, nous avons célébré ton nom. Nous nous sommes approchés de toi pour t'apporter, ô Dieu, les sentiments de nos cœurs, te faire connaître les paroles de nos bouches. Nous voulons maintenant, ô Dieu, te donner maintenant l'occasion de nous parler, de nous faire du bien par ta parole. C'est par ta parole que tu construis ton caractère dans chacun de nous. C'est par ta parole que tu nous transformes à ton image et à ta ressemblance. C'est par ta parole que tu éclaires et illumines notre intelligence. Mais aussi par la même parole, tu réveilles notre conscience, nous rendant ainsi sensibles à toi, sensibles, Seigneur, à ce qui te touche de près ou de loin. Parle-nous. Oins ton serviteur, donne-lui, Seigneur, cette grâce dont il a besoin pour pouvoir parler de ta part, parler devant toi, proclamer ta parole depuis la salle du trône. Et que cette parole trouve plus qu'un écho favorable auprès de nous, que cette parole, Seigneur, ô Dieu, atterrisse nos cœurs et qu'elle finisse par s'enraciner, par nourrir notre foi, par imprégner tout notre être. Bénis-la, alors que nous allons, Seigneur, l'écouter. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce matin est comment grandir dans la connaissance de Dieu. Comment grandir dans la connaissance de celui qui un jour nous a appelés des ténèbres à la lumière, sa lumière, de la mort à la vie, sa vie, celle qu'il a offerte à la croix pour chacun de nous. Comment grandir dans cette connaissance-là, eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, et le Seigneur le permettant la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche prochain. Comment grandir dans la connaissance de Dieu? Nous allons lire un texte tiré donc de l'Ancien Testament, à savoir dans le livre de Nombres, chapitre 13, Nombre 13, il s'agit donc de 12 explorateurs. J'aime le terme explorateur plutôt qu'espion, parce qu'espion, ça a une connotation péjorative. Ça fait un peu agent secret. Oui ou non? Et quand on sait comment les agents secrets d'aujourd'hui sont prêts à utiliser tous les moyens possibles pour récolter des informations, même tuer, alors nous nous rendons compte que ce n'est pas un terme approprié. Il s'agit de 12 explorateurs. Certes, qui sont allés rechercher des informations, certes, qui sont allés pour avoir une vision claire de la terre que le Seigneur leur avait promise. Donc, Nombre 13, nous allons lire les trois premiers versets. Ensuite, nous poursuivrons notre lecture au verset 17. Jusqu'au verset 21, et puis ensuite de 26 à 33. Nombre 13, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu, de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le Négeb, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses. C'est quel le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres où s'il n'y en a point, fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps de premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Verset 26. À leur arrivée, plutôt verset 25, à partir du verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Voilà ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici la preuve, donc les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées très grandes, nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait déjà contre Moïse. Il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Très encourageant, hein? Oui ou non? Hélas. Comment grandir dans notre connaissance de Dieu? Eh bien, comme vous le savez, frères et sœurs, le royaume de Dieu ainsi que son règne sont une réalité dans laquelle nous sommes entrés par la foi dans la personne de Jésus-Christ, mais aussi dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Nous sommes entrés dans ce royaume, c'est que le Seigneur attend maintenant de chacun de nous ce que nous puissions évoluer, progresser, aller de gloire en gloire, alors que nous sommes dans ce royaume. Non seulement Dieu voudrait que nous y demeurions, voyez-vous, mais Dieu voudrait qu'alors que nous faisons partie de son royaume, eh bien nous puissions connaître la prospérité et ce, à tous égards, que nous puissions connaître un plein épanouissement, alléluia, que nous puissions véritablement manger le fruit du royaume, gloire à Dieu, alléluia, que nous puissions, alors que nous faisons partie du royaume, eh bien, aller de l'avant, et ce, quel que soit le contexte temporel, spatial, dans lequel nous nous trouvons. Merci. Il y a toujours des petites notes à gauche, à droite. C'est mon livre de travail. C'est ma bibliothèque. Hein. Donc, il voudrait que, pendant que nous faisons partie de ce royaume, il veut, il désire, pour chacun de nous, que nous puissions, mes amis, connaître un plein épanouissement, que nous puissions avancer, que nous puissions, eh bien, découvrir de nouvelles choses avec lui, car le Seigneur a toujours de réserves pour chacun de nous. Nous avons déjà fait, eh bien, un bout de chemin avec lui, nous avons déjà fait toutes sortes d'expériences avec lui, croyez-moi, eh bien, il n'a pas encore fini avec chacun de nous. Il y a encore des choses que nous devons apprendre de lui, il y a encore des bénédictions que nous devons expérimenter. C'est pourquoi il voudrait que nous puissions grandir dans sa connaissance. Et quand nous parlons de connaissance de Dieu, eh bien, nous ne parlons pas de cette croyance intellectuelle, de cette croyance cérébrale qui serait le fruit d'une étude théologique simplement. Parler de la connaissance de Dieu, c'est parler de l'expérience avec Dieu. C'est expérimenter Dieu dans notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous voulons donc grandir dans cette connaissance, nous n'avons plutôt connaître ce plein épanouissement, aller de gloire en gloire, quel que soit le contexte présent, si nous voulons connaître tant de choses merveilleuses avec le Seigneur, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que de grandir, que de croître dans la connaissance de celui à qui appartient ce royaume. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre choix que de grandir. C'est d'ailleurs ce que... Est-ce qu'il y a moyen de bouger un tout petit peu ça? Ça me dérange. Donc, nous devons grandir dans la connaissance de celui qui est avec nous. C'est une connaissance dynamique. Gloire au Seigneur. Puisqu'il en est ainsi, alors la question que nous devrions nous poser est celle de savoir comment grandir dans cette connaissance dynamique. Comment continuer à expérimenter Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Car ceci, mes amis, connaître Dieu est un impératif de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, écrivant à ses lecteurs, leur a dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Alléluia. C'est donc un impératif. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons, mes amis, expérimenter tant de choses, nous n'avons pas d'autre choix que d'investir davantage dans la connaissance du Seigneur. Et la réponse à cette question, c'est que croître, grandir dans la connaissance du Seigneur, eh bien, pour grandir dans cette connaissance, pour croître dans cette connaissance, nous devons recevoir et développer une vision de la personne de Dieu qui soit juste, qui soit claire. Une vision du royaume de Dieu qui soit appropriée. Alléluia. La vision que nous développerons de la personne de Dieu, la vision que nous développerons du royaume de Dieu dans lequel nous sommes, eh bien, conditionnera notre manière de marcher. Alléluia. Nous amènera à grandir, à croître, ou alors nous amènera à décroître dans la connaissance du Seigneur. Et cette vision, cette image vraie, juste, appropriée, adéquate de Dieu, est une nécessité absolue. Il est donc de la plus haute importance pour chacun de nous que nous puissions savoir ceci. C'est que le chrétien, le vrai disciple de Jésus, où qu'il soit, ne pourra jamais vivre, connaître une vie plus épanouie, une vie plus victorieuse, une vie plus élevée. Il ne pourra jamais connaître cette vie-là tant qu'il n'aura pas une image, tant qu'il n'aura pas développé en lui une image qui soit en harmonie, qui reflète la vraie image du Dieu de la Bible et de son royaume dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Le problème se trouve à ce niveau-là. Voyez-vous ? Le problème se trouve au niveau de l'image que nous avons du Dieu de la Bible. Au niveau de la vision que nous développons. Et la vision que nous allons développer de ces dieux-là va nous conditionner, va nous impacter en bien ou en mal. Et cela déterminera, mes amis, toutes les expériences que nous aurons à faire en aval. En effet, si notre image de Dieu, si notre vision du Seigneur est tronquée, est fausse, n'est pas appropriée, inadéquate, eh bien, la conséquence, c'est que nous finirons par développer une image de nous-mêmes, mais aussi celle des autres, qui ne sera pas correcte, qui ne sera pas juste. C'est ainsi que beaucoup d'hommes et de femmes, tout en faisant partie du royaume de Dieu, eh bien, continuent à se comporter comme les 10 explorateurs dont il est question dans ce passage. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont expérimenté la délivrance de la part du Seigneur. Ils ont été pardonnés. Ils se sont mis en route avec Dieu. Mais voilà qu'ils ne progressent pas. Pourquoi ? Parce que ils ont fini par développer une image qui est tout à fait aux antipodes de l'image de Dieu, de l'image de la personne du Seigneur telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est déterminant. Vous voyez la différence entre Caleb et Josué, ainsi que le 10. Tous ont foulé le sol des Canaan. Tous ont vu la même chose. Oui ou non? Tous ont recueilli des fruits, des grappes de fruits qu'ils ont ramenés à Moïse. tous ont fait un rapport qui reflétait la réalité sur le terrain. Mais tous n'ont pas eu la même réaction par rapport, mes amis, à la situation des Canaans. Les 10 ont été découragés. Les 10, mes amis, face à ce pays qui était habité par des géants, face à ces villes fortifiées, face à tous ces dangers que représentait la terre des Canaans, ils se sont dit, ça ne sert à rien d'aller, car ce pays est habité par des gens qui dévorent d'autres gens. Une vision négative, une vision qui n'est pas correcte. Alors que nous l'avons lu, au premier verset, c'est Dieu qui demande à Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse ceci. Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaans que je donne. Alléluia. Dieu a donné. Tout lui appartient, mes amis. Il est le propriétaire ultime de tout. Il commence par rassurer Moïse. Il dit, envoie des gens qu'ils aillent explorer cette terre que je vous donne. Alléluia. Il n'avait qu'à recevoir ce pays d'abord par la foi. Et y aller avec une seule conviction. Prendre possession, conquérir ce territoire. Mais malheureusement, 10 ayant une vision tout à fait tronquée de Dieu, comme nous le verrons dans la suite, 10 ayant une vision tout à fait fausse de Dieu, ont fini par développer une fausse vision d'eux-mêmes, alors qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, pour finalement, eh bien, développer une fausse vision de peuple qui habitait Canaan. Certes, c'était des géants. Certes, c'était les fils d'Anak, certes, c'était des villes fortifiées, mais dites-moi, qu'est-ce qu'une ville fortifiée face au Seigneur de gloire? Qu'est-ce que c'est un géant lorsque le Dieu de toute grâce est avec nous? N'est-ce pas lui qui avait dit à Josué, qui lui dira plus tard, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je... » Avant qu'il dise cela à Josué, il avait dit à Moïse, « Cette terre, je vous la donne. » Envoyez des explorateurs. Simplement, allez voir ce qui vous attend. Et puis ensuite seulement, lancez-vous à la conquête de ce pays. J'aime beaucoup cette histoire que j'ai eu à vous raconter, qui reflète ou qui illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. C'est l'histoire donc de ces 4 aveugles dont je vous ai parlé une fois ici. Ces 4 aveugles des naissances qui n'avaient jamais vu, et puis qui un jour eurent l'occasion d'approcher un éléphant et de le toucher. Tous les 4 eurent l'opportunité d'avoir un attouchement avec le pachyderme. Et tous les 4, après cette expérience, se mirent à décrire l'éléphant. Se mirent donc quelque part à dessiner dans leur imagination ce qu'est un éléphant, puisqu'ils n'avaient jamais vu. Eh bien, le premier qui avait touché la trompe de l'éléphant décrit l'éléphant comme étant un tuyau d'arrosage. Voyez. Mais le deuxième qui lui avait touché une patte lui dit, non, tu n'as pas raison, c'est faux ce que tu dis. Un éléphant, c'est comme un gros tronc d'arbre. Parce que lui avait touché la patte. Le troisième regarda les 2 autres en leur disant, non, vous deux là, vous n'avez jamais touché d'éléphant. Comment pouvez-vous dire qu'un éléphant, c'est comme un tuyau d'arrosage, ou un éléphant, c'est comme un gros tronc d'arbre? Un éléphant, mais c'est comme un énorme ballon, parce que lui avait caressé le ventre de l'animal. Certainement que l'animal venait de manger. Voyez-vous? Et le quatrième, il dit, mais enfin, qu'est-ce que j'entends là? Je me rends compte que personne de vous 3 n'a vraiment touché l'éléphant. L'éléphant n'a rien à voir avec un gros ballon, ni un tuyau d'arrosage, encore moins avec un tronc d'arbre. Un éléphant, c'est comme un serpent, parce que lui avait touché la queue qui bougeait. Donc voyez, mes amis, tous les 4 ont approché l'éléphant. Tous les 4 l'ont touché, oui ou non? Mais regardez la description qu'ils font de l'éléphant. Regardez l'image qu'ils développent de l'éléphant. Eh bien, il en est de ces quatre aveugles, comme de beaucoup d'entre nous. Nous qui avons fait l'expérience avec le Seigneur. Chacun de nous a été touché d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a expérimenté Dieu d'une manière ou d'une autre. Et à partir de nos propres expériences, nous avons fini par développer une image de Dieu. Et dans la plupart des cas, cette image, mes amis, est loin d'être celle que la parole de Dieu nous communique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons faire attention. L'image de Dieu est importante. Le Seigneur est venu pour restaurer l'image du Créateur ici sur terre. Parce que les hommes ayant tourné le dos à Dieu, ils se sont fait toutes sortes de dieux, de faux dieux, toutes sortes de divinités. Et le Seigneur est venu restaurer l'homme et lui communiquer la vraie image du Créateur. Et cette image-là est appelée, mes amis, à nous imprégner, est appelée, mes amis, à nous conduire, car sans cette image qui est correcte, qui est juste de la personne de Dieu, eh bien nous ne pourrions pas aller loin. Nous nous contenterions simplement de ramasser quelques fruits. Or, ce que Dieu veut, c'est plus que de fruits. Il voudrait que nous puissions conquérir le territoire. Alléluia. Il voudrait que nous entrions de plein pied dans ce que lui nous a promis. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Voyez-vous, nous ne devrions pas nous laisser distraire par les obstacles, par les choses qu'il y a devant nous. Combien ont baissé le bras face aux épreuves? Combien ont baissé le bras parce que devant eux, il y avait toutes sortes de montagnes? Combien ont baissé le bras parce qu'ils avaient affaire ou ils ont affaire, mes amis, à des géants? Mais le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a délivrés, en Christ, ce Dieu-là, mes amis, est un Dieu pour qui rien n'est impossible. Il voudrait que nous vivions avec cette image du Dieu pour qui tout est possible. Lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est à nous de le recevoir par la foi. Alléluia. S'il nous a donné cette ville, peu importe le nombre de cabarets et de buvettes qu'il y a, s'il nous a donné cette ville, peu importe le nombre de koulounas qu'il y a, s'il nous a donné cette ville, peu importe l'attitude de tel ou tel autre homme politique, s'il nous a donné cette ville, peu importe la présence des francs-maçons ou des francs-menuisiers, s'il nous a donné cette ville, peu importe la présence de rosicruciens, s'il nous a donné cette ville, peu importe la présence de fausses religions, de faux prophètes, c'est à nous de conquérir le territoire. Car il est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Caleb et de Josué, il n'a pas changé, mes amis. Nous ne devons reculer devant aucune menace. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Car il a vaincu à la croix pour nous. Alléluia. Nous devrions marcher avec assurance. Nous devrions proclamer cette parole avec assurance. Voyez-vous, et ne pas trembler. Et ne pas nous retrouver en train de développer la mentalité de sauterelle. Se voir petit devant tout le monde. Comment voulez-vous attaquer un géant si dès le départ, à ses yeux, tu te vois comme une petite sauterelle, comme un petit likelele? Comment voulez-vous qu'une sauterelle affronte, mes amis, un éléphant? Dites-moi. Mais malheureusement, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Une image fausse de Dieu. Elle doit être restaurée, cette image de Dieu dans nos vies. Elle doit être restaurée, la vision de Dieu, mes amis. Nous devrions nous imprégner de la vraie image de Dieu. Quelle image de Dieu avons-nous? Voilà la question capitale. Quelle image de Dieu avons-nous? Est-ce un père fouettard? Vous connaissez ce personnage, hein? En Europe, il y a ce père fouettard qui est toujours là pour menacer les enfants, alors que le père Noël, lui, vient pour leur donner des cadeaux, etc. Quelle image de Dieu avons-nous? Un père fouettard qui est là seulement pour punir. Voyez? Dès qu'il y a quelque chose, paf! Et beaucoup de religions ont cette vision de Dieu. du Dieu qui est là, qui terrorise, oui ou non, qui inspire la terreur à chaque fois. Voyez, un Dieu qui est là pour fouetter les gens, et puis pour les condamner, c'est tout. Voilà, tu as fait ceci, pas une baffe. Tu as fait cela, un coup de pied. Quelle image de Dieu avons-nous? Celle d'un papa omelette ou gâteau qui est permissif à outrance. Voyez? Vous savez, il y a des papas gâteaux comme ça. Papa, je fais faire ceci. Oh, vas-y. Papa, je fais. Oh, allez-y, il n'y a pas de problème. Voyez? Qui comprend tout? Voyez? Papa, j'ai volé tout ça. Bon, je comprends, petit. Papa omelette. Qui est permissif, qui tolère tout, qui excuse tout. Voyez? Il y a des gens qui vivent avec ça. C'est ainsi que beaucoup, eh bien, n'ont pas la crainte de Dieu. Voyez? Ils ont l'impression que Dieu, ils ont l'image de Dieu comme celle d'un vieillard. Après autant de siècles, eh bien, quelque part, même sa vision a décliné. Voyez, il ne voit plus très bien, il a sa barbe jusque-là, toute blanche. Voyez? Il réagit ou il agit comme un vrai vieillard. Quand vous venez, oui, allez mon petit-fils. Dieu n'a pas de petits-enfants. Voyez-vous, quelle image de Dieu avons-nous? Du Dieu qui serait comme un policier, toujours prêt à verbaliser, à faire des PV. Toujours prêt, mes amis, à sanctionner le moindre écart de conduite ou de comportement. Voyez, il est là, il nous traque. Dès que tu convoites, ah Seigneur, voyez, quelle image de Dieu avons-nous, mes amis? Avoir une vision juste de ce Dieu-là, une image appropriée de la personne de Dieu est vitale pour nous, si nous voulons vraiment aller de conquête en conquête, même dans notre propre vie. Alléluia. Dieu a préparé des œuvres bien avant, afin que nous puissions les accomplir. Et croyez-moi, l'ennemi fera tout pour que nous ne puissions pas accomplir ces œuvres-là. Il essaiera par tous les moyens. Il mettra ce géant devant nous pour nous faire peur, pour nous faire paniquer. Mais nous ne devrions pas nous décourager. C'est pourquoi je voudrais t'encourager, toi, mon frère et ma sœur. Toi qui es là ce matin, peu importe le géant qu'il y a devant toi, si vraiment tu es avec le Seigneur, sache qu'il y a moyen, alléluia, de terrasser ce géant. Car celui qui est avec toi, celui qui est en toi, peut-être que tu ne le sais pas ou tu l'ignores, est plus fort et tout puissant. Plus fort que ceux qui se dressent devant toi. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons parlé de la nécessité d'être réveillés par le Saint-Esprit, évidemment, afin de voir et d'entendre. Car quelquefois, nous marchons comme des aveugles. Nous ne voyons pas la réalité objective, spirituelle, autour de nous et devant nous. C'est ce qui est arrivé à Élisée et à son serviteur. Ils se sont retrouvés dans cette ville de Dothan. Une nuit, les Syriens sont venus encercler la ville afin de tuer le prophète. La nuit, ils sont venus. Une grande troupe de soldats avec des chars, avec des chevaux. Ils ont encerclé la ville. C'était la nuit. Et le matin, tôt le matin, son serviteur se réveille, il sort de la maison et que voit-il? Eh bien, il voit, évidemment, l'armée syrienne qui encercle la ville. Il voit des chevaux et des chars qui sont là. Que faire dans un contexte pareil? Il panique, mes amis. Il est terrorisé. Pour lui, c'en est fini. Que pouvons-nous faire? Il a eu la réaction, mes amis, de ce dit explorateur, de ces 10 hommes qui avaient été envoyés par Moïse. Que pouvons-nous faire? Il est rentré. Heureusement pour lui, il a eu le réflexe de se tourner vers l'homme de Dieu. Il lui a dit, « Maître, tu ne sais peut-être pas ce qui nous attend dehors. » Qu'est-ce qui se passe? « Mais dehors, je ne sais pas, nous sommes peut-être en train de vivre nos dernières heures. Dehors, il y a les Syriens avec des chars, avec des chevaux. Ils nous attendent. » Paniqué, stressé, effrayé, terrorisé. Eh bien, l'homme de Dieu, avec un calme divin, lui dit, mais tranquillise-toi, ne t'agite pas, tranquillise-toi, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec. Il ne s'est pas contenté simplement de le rassurer à partir de cette parole, voyez-vous. Mais il prie, il dit, Éternel, ouvre les yeux de cet homme afin qu'il voie la réalité spirituelle. Le Seigneur a ouvert les yeux de l'assistant d'Élisée, et qu'est-ce qu'il voit? Des chevaux et des chars de feu autour de son serviteur. Alléluia. Des chevaux et des chars de feu. Et là, il a compris que si ses yeux ne pouvaient pas voir l'invisible, eh bien cela n'annula en rien la réalité présente. C'est que Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. C'est que Dieu, eh bien, est toujours là. Il est une muraille de feu pour tous ceux qui sont en Christ. Peu importe la menace. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc cette vision, elle est vraiment vitale. Elle est importante. Elle est dirigée, comme nous pouvons le voir dans ce texte, dans trois directions. Voyez-vous? D'abord, elle part. Elle est tournée vers le Seigneur. Puisque c'est Dieu qui donne cette vision-là, oui ou non? En disant qu'il donne la mission d'aller explorer. Donc, ils partent avec une certaine vision de Dieu. Et puis ensuite, la deuxième direction, eh bien, elle est dirigée vers eux-mêmes. Ils vont eux-mêmes développer une vision par rapport à eux-mêmes, et puis enfin, par rapport aux autres. Eh bien, puisqu'au départ, ils ont eu une vision tronquée, une vision fausse de Dieu, eh bien, la conséquence en aval, c'est qu'ils ont fini par développer une fausse vision d'eux-mêmes et aussi celle des autres. Et cela va avoir un impact négatif sur leur vie, mais aussi sur le peuple. Parce que ils vont, à partir de leur vision négative, ils vont susciter le découragement parmi le peuple. Ils vont entraîner le peuple dans le murmure. Ça, c'est une des conséquences. Lorsque on n'a pas une vision qui est correcte de la personne de Dieu. En quelque sorte, c'est une vision triphasée. Alléluia. Qui s'articule autour de ces trois axes, dont l'axe principal reste Dieu et Dieu seul. Car la vision de Dieu, eh bien, va donc conditionner la vision de nous-mêmes, mais aussi la vision de gens qui nous entourent. Qu'ils soient peuple de Dieu, qu'ils soient nos adversaires, peu importe. La vision de Dieu, eh bien, va conditionner tout. Si nous avons une vision juste, eh bien, les choses se passeront normalement, sans aucun problème. Alléluia. C'est ça l'histoire que nous trouvons dans ce chapitre, de ce 12 explorateurs envoyés par Moïse pour aller explorer, pour aller voir quel était ce pays que le Seigneur leur donnait. Il fallait qu'ils s'imprègnent de la réalité. Il fallait qu'ils sachent la nature de la terre, les gens qui l'habitent, les villes, si c'était simplement des campements de nomades ou alors des villes fortifiées. Il était important qu'ils aillent. Ils sont partis pour explorer le pays des Canaan, et au bout de 40 jours, ils sont revenus pour faire le rapport à Moïse, mais aussi à la communauté, parce que tout le monde attendait. Voyez-vous? Ils étaient en route. Dieu les avait délivrés. Ils étaient en route vers la terre promise. Tout le monde attendait ce rapport. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Internet, avec le développement des moyens de communication, des moyens télévisuels et tout cela, eh bien, on n'a pas toujours besoin d'aller en Australie pour savoir ou connaître ce pays. Oui ou non? Nous avons des images, des documentaires sur ce pays. Nous connaissons le genre d'animaux qui vivent là-bas, la nature du sol, etc. Donc on n'a plus besoin d'aller forcément dans un territoire pour connaître ce territoire. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de carte géographique ou cartographique, topographique, tout ce que vous voulez. Donc il était important que ces gens aillent se rendre compte de la réalité du terrain. Et quand ils sont revenus, nous l'avons lu, 10 vont faire un rapport, c'est normal, avec des fruits dans leurs mains. Ils vont faire un rapport. Oui, nous avons été dans ce pays. C'est en effet, c'est effectivement un pays où coule le lait et le miel. C'est une expression hébraïque pour dire où il y a le bonheur, où il y a la prospérité à tous égards. Voyez-vous? Donc, c'est vrai, comme le Seigneur nous l'avait dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, c'est le cas. Donc, la parole de Dieu a été correcte. Et il continue. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est un pays où il y a tout, nous venons d'Égypte, nous avons vécu dans le désert, mais là, il y a des verdures, il y a des arbres, il y a de tout. Voilà le fruit. Ils ont donc cueilli de fruits qu'ils ont ramenés. Ça, c'est le côté positif. Et puis ensuite, mais, il y a un mais. Ah, mais, s'il y a tout ça, ce pays-là n'est pas un pays vierge. Il est habité. Il est occupé. Pas par n'importe quel peuple, voyez-vous, par un peuple puissant. Un peuple qui dévore les habitants. Un peuple constitué des géants, de gens de haute taille. Un peuple, oh là là, puissant. Non seulement un peuple puissant, mais les villes sont des villes fortifiées. Ce ne sont pas des campements de nomades, comme nous en avons rencontré durant notre pérégrination à travers le désert. Pas du tout. C'est des villes fortifiées. Et non seulement il y a des géants, mais il y a ces fils d'Anak qui étaient très célèbres. Très célèbres. Comme aujourd'hui, vous savez, il y a des peuples qui sont très grands. Et il y a des peuples où vous trouvez des gens de 2 mètres quasiment. Hein. Oui ou non? Des géants, etc. Et bref, tout cela pour dire quoi? Nous ne pouvons pas y aller. C'est un pays qui dévore ses habitants. Nous étions aux yeux de ces gens-là, de ces géants, comme des sauterelles. Et aussi nous étions à nos propres yeux, vous voyez? Comme des... Regardez mes amis, la vision qu'ils finissent par avoir d'eux-mêmes. Ce sont des sauterelles. Voyez-vous? Et aux yeux de ces géants, ils sont aussi des sauterelles. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui a une vision, qui n'est qu'une sauterelle, qui n'est qu'un petit moustique qui bourdonne de temps à autre, comment voulez-vous que quelqu'un qui pense qu'il n'est qu'un petit lièvre en face des lions, comment voulez-vous qu'un homme ou une femme comme celui-là ou celle-là puisse, mes amis, avoir le courage d'avancer dans la vie? Vous comprenez pourquoi beaucoup d'entre nous font du surplace, stagnent. Voyez, ils sont dans un état de statu quo permanent. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas avancer. Ils ont peur. Peur de prendre le risque. La foi est un risque, mais un risque pour Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre de quitter la barque, c'était un grand risque. C'était à Pierre, soit de se laisser effrayer par ces eaux de la mer qui étaient agitées, ballottées par toutes sortes de vents, de tempêtes, ou alors Il ne regardait pas tout ça, mais il fixait ses yeux sur le Seigneur. Et il serrait sa parole dans son cœur. C'est ce que Pierre a fait, mes amis. Et il est sorti de la barque. Voyez-vous? Si nous nous laissons effrayer par le contexte qui nous entoure, nous risquons de ne pas aller loin. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avoir une foi audacieuse. Alléluia. Que nous soyons de ceux qui se font violence. Alors que le moi a peur, alors que le moi essaye de nous décourager, eh bien nous transcendons le moi par notre confiance totale et entière dans la personne du Christ. Et nous nous disons, il a tout accompli à la croix. Il a dit qu'il est avec nous. Il a dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il a dit que tout lieu qui foulera la plante de nos pieds, il nous les donne. Il a dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Eh bien, nous avançons. Alléluia. Voilà la mentalité de guerrier. Voilà la mentalité de conquérant. C'est cette mentalité dont on fait montre Caleb et Josué. Ils ne se sont pas laissés décourager, mes amis. Caleb a dit, allons, montons, et nous vaincrons. Ils savaient que celui qui les avait délivrés d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, celui qui avait écrasé les Égyptiens, leurs adversaires, celui qui avait ouvert les eaux de la mer, celui qui les avait gardés à travers le désert, celui qui les avait nourris d'une manière ou d'une autre, celui-là s'appelle le grand Je suis. Que ce soit en Égypte, il reste tout puissant. Que ce soit face à la mer, il reste le même. Que ce soit au désert, il reste le même. Alléluia. Que ce soit devant Canaan, eh bien, il reste tout puissant. Puisqu'il en est ainsi, peu importe ce qu'il y a devant nous, ce qui est important, c'est que lui soit avec nous. Et lorsqu'il est avec nous, eh bien, il nous donne le feu vert. Lorsqu'il est avec nous, eh bien, le feu est au vert. Mais malheureusement, l'ennemi est arrivé à inoculer dans le cœur de beaucoup d'entre nous du poison qui a fini par nous rendre des daltoniens. Vous savez, le daltonisme, c'est confusion de couleurs au niveau visuel. Un daltonien voit rouge là où il y a le vert. Vous savez ça? Et là où il y a le vert, le rouge, il voit quoi? Donc il y a confusion. Et quand on est daltonien, et dans un pays où vous trouvez à tous les carrefours de feu, de signalisation, ça devient danger. Parce que lui va arriver, il voit le feu vert, alors qu'en réalité c'est, et il passe, et résultat, il provoque des accidents. Voyez. Et c'est comme ça que l'ennemi est arrivé à nous avoir. L'ennemi est arrivé à intoxiquer nos pensées. Et ces pensées ont fait de nous des daltoniens. Et il y en a beaucoup, une fois que le feu rouge, il dit non, j'attends. Tu attends quoi? Tu attends le retour du Seigneur? 5 ans, oh, j'attends. Quand il lève les yeux, ah, c'est toujours au rouge. Mais d'autres viennent, ils passent. Oh, mais comment ils passent? Et pourtant, c'est rouge. Ils ont brûlé le feu. Seigneur, pardonne-leur. Non. Le problème se trouve en toi. Alléluia. Tu devrais laisser le Seigneur renouveler ton intelligence. Tu devrais laisser le Seigneur, mes amis, laver ton intelligence. Ouvrir tes yeux. Alors, tu verrais ce que lui voit. Que le feu est au vert. Et que c'est le moment de passer. Alléluia. Et de ne pas tourner. Et pour Caleb, et pour Josué, alors pour les 10, c'était le rouge. Le feu rouge, il fallait s'arrêter. Il fallait même pas aller pour le 2 là. Eh bien, celui qui avait dit, je vous donne ce pays, avait mis le feu au, c'est tout. Et si le feu est au vert, on ne regarde pas. Enfin, ici, chez nous, il faut être toujours prudent. Même au vert, là, vous n'avez pas l'assurance. Hein? Il y a toujours un délinquant routier qui brûle le feu et qui vous rentre dedans. Mais ailleurs, c'est strict. Voyez-vous? Ailleurs, tu fais ça, mes amis, c'est une amende salée. Vous voyez? Donc, c'est une infraction. C'est parmi les infractions graves. On peut même vous retirer le permis de conduire. En France, on enlève le point, puisque c'est un permis à point. Vous voyez? C'est très strict. Dieu doit renouveler, mes amis, notre vision, alléluia, afin que nous voyions comme lui voit. Ils avaient une fausse vision de Dieu. Pour eux, le Dieu qui avait agi dans le passé était incapable. C'était ça le message. Incapable d'agir dans le présent. Incapable de les aider. S'il avait ouvert le seau de la mer rouge, ça va encore. S'il leur avait envoyé des cailles dans le désert, ça va encore. La manne, ça va encore. Mais face aux géants, mais on n'a jamais vu ces dieux-là manipuler l'arme. Vous voyez? Donc, en eux-mêmes, ils ont développé une fausse image de Dieu. Cette image va avoir des répercussions négatives sur leur propre image, mais aussi sur celle des autres. Nous devrions voir les gens comme Dieu les voit, et ne pas trembler comme des feuilles mortes devant un homme parce qu'il a des galons, devant un homme parce qu'il est élevé. Bien sûr, nous les respectons, mais il n'est pas du tout question de trembler. Comme Martin Luther avait dit, il dit, j'ai tellement la crainte de Dieu que je ne vois pas comment je pourrais avoir la peur d'un homme. Vous voyez? Un homme, il vient, oh, c'est le grand, ceci, le grand, d'accord. Et puis, après, c'est quoi? Il y a le grand des grands. Amen. Gloire à Dieu. Oh, c'est le roi des Belges, d'accord. Mais il y a le roi des rois. Oui ou non? Alors, il n'y a pas du tout que, oui, le roi des Belges. Alors, il y en a qui font. Hein? Combien de chrétiens qui oublient tout de suite, qui cherchent des autographes encore des gens du monde. Ah, j'ai toujours aimé ce musicien-là. Il m'a fait danser. J'ai l'occasion de le voir. Hé, ah, vieux. Je peux avoir une photo avec vous? On tremble. Au lieu de voir ce musicien comme un homme qui a besoin de Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et pour avoir une telle vision des autres, il faut avoir d'abord et avant tout la vraie vision de Dieu. Ce Dieu qui nous aide, il devient, mes amis, notre collyre, qui oint nos yeux et qui nous permet de voir comme lui voit, alléluia. Autrement, mes amis, eh bien, le daltonisme continuera à exercer sur notre vie des conséquences terribles. Nous ne pourrions pas aller de l'avant. Pour nous, tout sera haut. On tourne à gauche, ah, tout est rouge. On veut aller vers le nord, tout est rouge. Finalement, Seigneur, tu m'as oublié. Comment expliquer? Il y en a qui attendent leur saison. Vous attendrez longtemps. Oh, j'attends ma saison. Très bien. Ça fait 6 ans que tu attends ta saison. Même la saison des pluies ne dure pas autant. Hein? C'est la plus longue ici, en climat équatorial, oui ou non? Mais la sécheresse arrive à la bousculer. Elle dit, mon temps arrive. Hein. Mets-toi un peu de côté. Toi, tu attends 6 ans ta saison. Entre-temps, la pluie sera déjà tombée combien de fois? Mes amis, nous devons, pour aller rapidement, eh bien, laisser Dieu développer en nous cette image, comme Josué et Caleb, qui pour la même exploration, vont avoir une réaction tout à fait positive. Ils vont continuer à voir les choses au travers des lunettes divines. Ils vont dire à Moïse et à la communauté israélite, c'est vrai, c'est un pays bon. C'est vrai aussi qu'il y a des obstacles, il y a des géants. Mais, ajoute Caleb, montons et nous prendrons possession du pays. Voilà la foi, mes amis. Voilà la réaction de quelqu'un qui marche avec une image claire, juste de Dieu. Il sait que son Dieu peut tout. Alléluia. Il sait que pour son Dieu, rien n'est impossible. Il sait que quelle que soit la taille de la montagne, ce Dieu-là a dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon... Eh bien, puisque c'est par son esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je me laisse simplement conduire par son esprit. Et quand j'arriverai, la montagne, avant même que j'arrive, se sera jetée déjà dans la mer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà la mentalité que nous devrions avoir. Et ne pas avoir la mentalité de sauterelle. Se voir toujours petit. Oh, que pouvons-nous faire? Voyez-vous?
Nous avons parmi les dirigeants des gens qui sont dans toutes sortes de mysticisme, dans toutes sortes d'occultisme. Mais nous devrions rendre grâce à Dieu et dire, Seigneur, merci. Comme ça, nous allons les gagner à toi.
Alléluia.
Imaginez-vous un peu tous ceux qui nous dirigent, au niveau provincial, au niveau central, tous étaient des chrétiens qui parlent en langue, qui chantent en esprit. Ben, on n'aurait plus de sujet d'intercession.
Oui ou non?
Tout ce qu'on aurait à faire, eh bien, s'asseoir et attendre que Jésus nous reprenne. Voilà. Ou alors que, Seigneur, nous attendons que la trompette sonne. Parce que tout, ils sont tous convertis. Tu vas vers quelqu'un, connais Dieu, dit, mais je le connais déjà. Je parle même en langue. Ok. Est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Oh oui, mais c'est depuis 6 mois. Je suis né de nouveau. Bon. Vous allez là-bas, mais, madame, j'ai quelque chose à vous partager. Très bien, elle vous accueille avec un sourire biblique. Vous commencez à lui parler du Seigneur, dit, mais ma soeur, je suis votre soeur en Christ. Ah bon? Elle dit, oui, Jésus est venu dans ma vie. Vous tournez en arrière. Et puis vous dites à un moment, elle dit, bon, ils sont tous convertis, je vais faire quoi? Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons redresser la tête. Avancer avec assurance. Car celui qui est à nos côtés, celui qui est avec nous, est plus grand. Il est tout puissant, plus fort que ceux qui sont devant nous, que ceux qui sont autour de nous. Et l'Église est appelée à avoir cette mentalité-là de conquérant. Alléluia. Une Église conquérante qui gagne les territoires et qui ne se contente pas simplement de ramasser quelques fruits et puis manger, dit, bon, ah, c'est merveilleux. Oui, c'est bon. Ils en ont mangé ce fruit-là. Mais vous mangez le fruit. Tant que vous n'avez pas les arbres fruitiers, qu'est-ce qui arrivera? Vous mourrez de faim après, hein? Or, Dieu voudrait que nous allions de conquête en conquête. Car chaque territoire que nous aurons conquis, eh bien, sera pour nous aussi une source de bénédiction. Nous pourrions alors manger le fruit du pays autant que nous voulons. Nous mangeons les figues, nous mangeons les raisins, nous mangeons les pommes, les mangues, les ananas, tout ce que vous voulez, parce que nous aurons... Et puis nous en planterons même de nouveau. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des vainqueurs. Car avec lui, nous sommes appelés à être plus que vainqueurs. Alléluia. Évitons cette vision négative qui finit toujours par entraîner des remous parmi le peuple de Dieu. Comme je le disais le vendredi, il y en a qui ne voient que le mal. Ça, c'est une vision négative. Qui ne voit que le mal. Qui ne voit que les faiblesses. Quand ils regardent, oh, mais moi je les connais tous. Ils ne sont pas convertis. Vous savez, il y a des gens qui nous voient. Comme je le disais, je l'ai dit vendredi. C'est pourquoi vous devez venir, avoir l'habitude de venir régulièrement en semaine. J'ai dit, nous serions à l'époque du Seigneur des observateurs. Je vais terminer par là. Eh bien, nous aurions eu autant de raisons de voir le mal autour du Seigneur. Hein. Vous savez ça? Parmi ceux qu'il avait choisis. On se serait dit, ah, c'est Jésus, non? Mais oui. C'est le Fils de Dieu, oui. Mais comment il accepte que Judas soit là? Ah. Judas était là, oui ou non? Qu'est-ce que nous, on aurait fait avec notre esprit critique? Ah non, Jésus doit aussi évoluer en discernement. Hein? Certes, il y avait Judas, mais il y avait Pierre. Pourquoi ne pas voir Pierre? Pourquoi ne pas voir Jean? Pourquoi ne pas voir Philippe? Pourquoi ne pas voir Jacques? Voyez-vous? D'ailleurs, celui-là, il a fini par se suicider. Mais les autres ont poursuivi leur marche jusqu'à ce qu'ils entrent dans la gloire. C'est sur eux que nous devrions avoir des yeux.
Alléluia.
Oui, soyons de ceux qui développent une vision claire, nette, juste de Dieu. Comme Caleb et Josué. Alléluia. Et cette vision juste de Dieu, mes amis, aura un impact positif sur nous. Rien ne pourra nous arrêter. Quand nous verrons une montagne, eh bien, nous regarderons au-delà de la montagne. Et au-delà de la montagne, il y a le Seigneur qui est assis sur son trône et qui règne au siècle de siècle. Alléluia. Et voyant le Seigneur au-delà de la montagne, cela nous boosterait, cela nous encouragerait à aller de l'avant. Oui ou non? Eh bien, vivons avec cette image-là. Alors, le Dieu de la Bible commencera à devenir une réalité et rien ne pourra nous arrêter dans notre marche avec lui. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.
Tu nous appelles à développer une vision, Seigneur, qui soit en accord avec toi. Une vision claire, juste, appropriée, adéquate. Car une telle vision aura des impacts positifs dans nos vies. Avec une telle vision, nous pourrions alors marcher et vivre avec la mentalité céleste. Nous pourrions aller de gloire en gloire. Rien ne pourrait nous arrêter, Seigneur. Nous deviendrions, Seigneur, ainsi de véritables conquérants. Aide-nous à développer cette vision, Seigneur. Aide-nous à laisser ton esprit, ta parole, eh bien, nous inspirer, susciter en nous cette image, nous communiquer la vraie vision, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes devant toi, alors que nous venons te demander, Seigneur, de nous aider, de restaurer l'image, ton image en nous par ton esprit, nous voulons en même temps te demander, Seigneur, de bénir ce service des offrandes, ce service des dîmes, Seigneur. Oh, quel bonheur pour nous de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Quel bonheur, quel privilège pour nous, Seigneur, de contribuer, oh Dieu, à ce que ton règne avance, de ce que ton royaume aille de l'avant. Bénis et sanctifie ces offrandes en ton nom, Seigneur. Amen.
Acclamons la parole de Dieu.